Autre radio, autre culture, bonjour, émission également diffusée sur audiopeople.fr avec ce matin le retour d'Antoine Bouvy qui nous vient de Chine pour une expérience extraordinaire. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Et également la participation de Christophe Bouillou. Bonjour Christophe.
Bonjour Marion, bonjour Antoine.
Antoine, nous te recevons parce que bientôt tu vas avoir un concert qui se déroule le 13 mars 2010.
Absolument.
Parle-nous, dis-nous quelques mots sur ce concert.
C'est un concert qui aura lieu dans un cadre assez fantastique. C'est ce qu'on appelle la salle de l'ancien conservatoire, donc qui est maintenant le Conservatoire National d'Art Dramatique, qui est une salle avec une histoire fabuleuse quand on imagine que Chopin a joué plusieurs fois dans cette salle et qu'il a même joué en duo avec Liszt dans cette salle. Donc il y aura une bonne ambiance. Et c'est un concert qui célèbre le bicentenaire de la naissance de deux génies de la musique, Robert Schumann et Frédéric Chopin. Donc 1810-2010, c'est un concert à cette occasion où je vais jouer avec Marc Drobinski au violoncelle, qui est un violoncelliste extraordinaire avec qui on joue assez régulièrement. Donc nous allons jouer les œuvres de musique de chambre de Schumann et de Chopin.
C'est facile d'arriver à faire une liaison entre ces deux musiciens ?
La liaison, le lien principal, c'est la poésie. Ces deux compositeurs sont vraiment des poètes différents dans le style, dans la forme, mais vraiment, c'est comment dire, ça ils dégagent des atmosphères de rêves passionnés, tourmentés. C'est des atmosphères différentes, mais vraiment, ça passe par la poésie des sons. C'est pas la poésie des mots, mais c'est la poésie des sons.
Bien, donc ça se passe. Je le dis tout de suite, on le répète. Pétra en fin d'interview. Mmh. Cela se passe le 13 mars 2010 à 20h.
Voilà.
Donc c'est à la salle du Conservatoire National d'Art Dramatique.
Dans le 9e, absolument.
Dans le 9e. Bien. Alors nous nous voyons aujourd'hui pour une mission très spéciale puisque c'est ton expérience, tes pérégrinations de concertiste mais surtout de professeur en Chine et plus particulièrement dans un lieu que l'on commence à bien connaître à Autre Radio, Autre Culture, c'est Chengdu.
Voilà, oui, c'est le hasard, c'est vrai que on s'est retrouvé plusieurs fois là-bas effectivement.
Alors c'est amusant parce qu'on m'avait dit à l'époque, on m'avait dit que Chengdu c'était vraiment le centre culturel de la Chine. C'est là où tout partait, au niveau culturel, que tout se crée. Est-ce que tu as eu cette impression-là en arrivant à Chengdu ?
C'est vrai que j'ai eu cette impression. La plupart des musiciens que j'ai pu rencontrer m'ont confirmé la même chose. Alors peut-être parce qu'ils étaient de Chengdu aussi. Mais je pense que c'est un endroit qui, historiquement, a été un des plus calmes. Il n'y a pas eu véritablement de guerre, de révolution. C'est un des endroits les plus calmes de Chine. Dès qu'il y avait des problèmes, d'ailleurs, tout le gouvernement venait à Chengdu pour se protéger. Comme c'est entouré de montagnes, c'est peut-être un endroit plus difficile d'accès. Et c'est vrai que la vie est beaucoup plus paisible que dans d'autres parties de la Chine. Donc ça a peut-être été un moyen de laisser place au développement artistique. Probablement que c'est une des raisons, en tout cas.
Alors une chose qui n'a rien à voir avec le reste, on me dit souvent qu'à Chengdu, il fait mauvais. Il y a très mauvais temps. Il y a toujours un ciel très plombé. Est-ce que tu as vu du soleil ?
Alors, c'est vrai que derrière les nuages, il y avait du soleil. C'est-à-dire que j'étais au mois d'août, donc c'est évidemment peut-être pas la meilleure saison pour le tourisme parce qu'il fait très chaud, extrêmement étouffant. C'est vraiment c'est 40 degrés, 90-95% d'humidité. Donc c'est vrai que c'est assez épuisant. Et quand on voit le soleil, c'est généralement pas bon signe parce que là, il fait encore plus chaud. Donc c'est vraiment la Chine du Sud, donc c'est normal d'avoir aussi ces climats-là. Par contre, ce qui est bien, c'est que comme on est juste à côté des montagnes du Tibet, en quelques kilomètres de voiture, on a tout de suite un climat beaucoup plus agréable parce qu'on monte tout de suite en altitude et là, là c'est tout de suite beaucoup plus frais, les nuits sont fraîches, c'est assez agréable. Mais Chengdu même, c'est vrai que c'est très très plombé, humide et très très chaud l'été. Hein. ça demande un bon système cardiaque.
Bien, dans quel cadre étais-tu parti là-bas ?
Alors, je suis parti pour donner quelques cours à des élèves prometteurs chinois de cette région. Donc, Chengdu, c'est la région du Sichuan. Et aussi pour faire une sélection pour un concours qui a lieu à Nice. Et un concours dans lequel je suis au jury. Et on devait sélectionner une dizaine de jeunes pianistes chinois pour participer à ce concours à Nice. Donc le but du jeu, c'était de travailler avec ses élèves, et à la fin des cours, il y avait cette sélection pour ce concours de Nice.
Y a-t-il eu un choix énorme ? Y a-t-il énormément de jeunes musiciens ?
Oui, alors il y a une statistique qui est assez amusante. Il faut savoir qu'en Chine, il y a autant d'apprentis pianistes, enfin d'élèves pianistes, que d'habitants en Pologne. C'est-à-dire à peu près 48 millions. Donc c'est des chiffres assez incroyables. Là, j'ai pu entendre à peu près, je pense, 70 pianistes. Et donc sur les 70, on en a sélectionné 10, une dizaine. Maintenant, c'était la première année pour cette sélection. J'ai déjà eu contact avec cet organisateur pour l'année prochaine. Et ils espèrent avoir à peu près 200 pianistes pour la sélection. Donc vous voyez, ça va très vite.
Comment perçoit la musique ? Parce qu'en général, ils jouent de la musique, j'imagine, européenne, classique.
Oui, c'est vrai que dans l'instrument, comme le piano, il y a effectivement, c'est en grande majeure partie les compositeurs que nous connaissons tous. Bon, ils ont une musique traditionnelle aussi, ils en sont très proches. Généralement, il y a aussi des compositeurs chinois qui écrivent pour le piano, et ça fait partie de... ils en connaissent tous quelques œuvres, mais c'est vrai que c'est la musique occidentale principalement.
Quels sont les compositeurs qu'ils préfèrent, dont ils sont le plus proches ?
Je pense que les compositeurs les plus proches, j'ai travaillé beaucoup en tout cas sur des œuvres de Chopin et de Liszt. Ça, le répertoire romantique a l'air d'être quelque chose de très proche. Le répertoire classique et baroque, un petit peu moins. Bah oui, voilà, je pense principalement le répertoire romantique. Et aussi quelques compositeurs russes, parce que souvent, certains de leurs professeurs ont étudié en Russie avant de revenir en Chine, donc ont été forcément influencés par ce répertoire. Donc on a pu aussi travailler sur des œuvres de Rachmaninov, Prokofiev, ce genre de compositeurs.
Est-ce que tu avais des idées préconçues lorsque tu es allé là-bas ?
Comme tout le monde, c'est vrai que la Chine provoque l'imagination. On en entend parler dans tous les sens, sur le plan économique, sur pas mal de plans. Donc j'avais forcément quelques idées. Certaines se sont révélées exactes et beaucoup d'autres inexactes. Et certaines incomplètes, on pourrait dire. Certaines idées n'étaient pas vraiment... fondé, où il y avait un petit peu de vrai, un petit peu de faux.
Les relations avec leurs professeurs, tu les as rencontrées ?
J'ai rencontré les professeurs également. Je dois dire très respectueuses. Par exemple, ça c'est un des points où j'avais une fausse idée. Je pensais que les cours n'allaient pas être vraiment interactifs. C'est-à-dire que on a souvent cette image que l'élève ne dit rien, il exécute simplement ce qu'on dit, comme si c'était vraiment un réflexe de faire ce que le professeur dit. Mais il y avait un dialogue, un échange avec l'élève qui était beaucoup plus riche que ce que j'attendais en arrivant là-bas. Et c'est extrêmement agréable, parce que le cours se déroule de manière et simplement plus riche. Quand on a des questions de l'élève, on sent son intérêt, on a envie d'aller plus loin, c'est très intéressant de travailler comme ça. Dans l'ensemble, j'ai trouvé des élèves très attachants et très intéressants. Et dans leur relation avec leur professeur officiel, je crois que c'était la même chose. Maintenant, il y avait peut-être aussi une certaine représentation. Peut-être qu'avec leur professeur, ils ils étaient un petit peu plus... Il n'y avait pas de problème apparent, mais je sais, j'ai creusé un petit peu après en discutant avec certaines personnes que probablement leur professeur était beaucoup plus dur que ce qu'ils ne montraient, que ce qu'ils ne me montraient en tout cas.
Est-ce que tu as remarqué dans leur façon d'interpréter ou en discutant avec leur professeur, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait par moments une autre manière d'interpréter ou de mettre l'accent sur certains morceaux plus particuliers que l'on ne faisait pas, par exemple en France ou alors en Europe de l'Est.
C'est certain qu'il y a des différences culturelles énormes, donc sur certains points, c'est évident qu'il y a des différences. Je sais pas, on peut prendre l'exemple comme une personne m'avait joué Mephistovals de Liszt. L'idée du diable peut être très différente entre la Chine et la France. C'est vrai que ça c'est un thème qui peut vraiment, enfin qui a des variations suivant les cultures. Donc il y a eu ce genre de surprise. Maintenant, bon, ça c'est une autre caricature dont je me méfie d'ailleurs fortement, mais qu'on donne souvent des pays asiatiques où comme si on jouait mécaniquement, comme s'il n'y avait pas de sensibilité ou autre. Or, les Chinois sont des gens extrêmement sensibles. Quand on parlait des sentiments ou du sens de certaines œuvres, on sentait tout de suite qu'ils réagissaient au quart de tour. Donc ça, c'était très plaisant. C'est vrai que il y a une méthode de travail qui de temps en temps anesthésie un petit peu cette analyse de l'œuvre, ce ressenti de l'œuvre. C'est-à-dire que si on répète constamment certaines choses, on finit par ne plus ressentir la saveur. C'est ce qui a pu se produire pour certains élèves. Donc à force de répéter des heures et des heures, jusqu'à 10 heures par jour, quelques passages difficiles, on finit par oublier le sens de l'œuvre. Mais ça, c'est une erreur qu'on peut trouver, enfin qu'on ne trouve pas uniquement en Chine. Mais c'est vrai qu'en Chine, on peut la retrouver un peu plus fréquemment.
Par quel biais vous avez eu la chance justement d'être pris pour former les jeunes musiciens? Enfin, c'est pas former, c'est finalement de les choisir.
Voilà, choisir et puis aussi un petit peu conseiller, parce que la personne qui a organisé ça, c'est un pianiste chinois qui travaille maintenant à Chengdu et qui a fait ses études dans la même académie que moi, en Lettonie. Donc il a aussi vu une autre manière d'enseigner. Et c'est quelqu'un, en revenant en Chine, qui a essayé de diffuser un peu cette méthode, on va dire, c'était l'école russe, donc ce type d'école dans son enseignement. Et il a vu qu'il y avait certains points qui manquaient cruellement dans l'école chinoise, des points que l'école russe pouvait combler, et cette école pouvait apporter beaucoup aux élèves chinois. Sa démarche était d'inviter des gens, on va dire, d'Europe pour venir donner des cours aux élèves chinois, pour ouvrir des horizons. Parce qu'il avait remarqué, et c'est très juste d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'enfants qui, on va dire entre 10 et 14 ans, qui arrivent à un niveau extraordinaire par un travail très conséquent et aussi une bonne direction de base. Mais après, stagne. Il y a un risque de stagnation qui est très grand. Le moteur, comment vous expliquez ça? C'est assez compliqué parce qu'il y a les questions d'enseignement, donc artistique, et les questions culturelles. Par exemple, la compétition ou être absolument le meilleur pianiste de son école, ce genre de choses qui peuvent perturber. Pour résumer, il voulait que les élèves ne perdent jamais le fil. Le but du jeu, c'est d'être un artiste. Que si on travaille beaucoup, c'est pas pour être le meilleur de son école, mais de vraiment devenir un artiste et vivre en tant qu'artiste. Et ça, c'est quelque chose, voilà, qu'on ne trouve pas, ce paramètre-là, pas beaucoup dans l'enseignement en Chine. Cet esprit de compétition, des fois, paralyse ce côté artistique.
Même quand ils sont plus âgés, parce qu'on a toujours, on a toujours le sentiment que cette sensibilité n'arrive à se développer que lorsqu'ils sont à la maturité de la technique.
Voilà, oui, c'est la zone de l'adolescence la plus dangereuse justement dans la formation de ces jeunes-là, parce que jusqu'à 14 ans à peu près, ils travaillent comme on leur dit de travailler. Mais après, quand ils commencent à se poser des questions, s'ils n'arrivent pas à les résoudre, ou ils quittent carrément le domaine musical, ou alors ils sont tellement anesthésiés qu'ils continuent la musique sans même savoir véritablement pourquoi. Donc c'est vraiment un moment crucial. Justement, et le but de ce professeur chinois, c'était d'essayer de donner des influences aux élèves pour leur montrer voilà, de nouveaux horizons, ce qu'ils peuvent attendre de ce métier, ce qu'ils peuvent trouver en plus dans leur étude pianistique.
Est-ce que tu as eu le sentiment qu'un peu comme en sport, la gymnastique et tous ces sports-là, le gouvernement pousse et leur met une pression en disant « Attention, vous représentez le pays, il faut que vous soyez fort ». Enfin, il y a cette pression-là aussi étatique
oui. Alors,
qui s'impose à eux.
Oui, il y a la pression étatique, mais il y a la pression familiale, il y a la pression D'accord. simplement voilà, de l'ensemble. C'est une pression culturelle, j'allais dire.
C'est un moyen de s'en sortir pour des familles modestes, tu penses ?
Voilà.
Mettre la fierté sur la famille.
Il y a de ça tout simplement, beaucoup de familles ne comprennent pas l'intérêt de faire de la musique si c'est pas pour être le meilleur. C'est présenté comme ça. Maintenant, c'est souvent ce que j'ai pu voir, les gens qui étudient le piano, c'est plutôt des classes moyennes, et des classes moyennes assez confortables quand même. Donc c'est des gens, souvent les familles investissent beaucoup sur l'enfant pour qu'il ait une carrière et une célébrité. C'est pour ça que dès qu'il y a des moyens d'aller à l'étranger, de faire des masterclass à l'étranger, des concerts, des concours, ils n'hésitent pas vraiment à dépenser beaucoup d'argent pour que l'enfant voilà, puisse évoluer au mieux et revenir le plus couronné, on va dire.
D'accord. Est-ce qu'il y a un système de conservatoire ?
Oui, il y a les conservatoires officiels, il y a les conservatoires privés, il y a une école justement, c'était dans ce cadre, j'étais dans un cadre entre l'école qu'on appelle Liu Shikun, c'est un pianiste chinois qui a gagné le deuxième prix au concours Tchaïkovski il y a de nombreuses années, et qui a fondé sa propre école. Donc une école, on va dire, privée, et qui s'y diffusait dans toute la Chine. Il doit y avoir maintenant, je pense, je ne sais pas combien, peut-être plus de 60 écoles portant son nom sur toute la Chine. Donc c'était, voilà, il y avait des élèves du conservatoire et des élèves de cette école du Shikun qui sont venus pour les cours et cette sélection.
Et le niveau était le même, à peu près ?
Je pense que le conservatoire a un niveau plus régulier dans l'ensemble. Mais dans les écoles privées, on peut trouver aussi de très très bons éléments. C'est des psychologies différentes. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu déjà un filtre au niveau du conservatoire pour envoyer les élèves, mais ça je ne le sais pas.
Alors par rapport à des élèves du même âge, est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce qu'ils sont plus doués, plus organisés ?
Alors, la Chine étant vraiment le pays du contraste, c'est vrai qu'il y a énormément de différences d'un élève à un autre. On va des cas absolument, c'est des génies totalement inconcevables à des personnes vraiment où il faut apprendre tout depuis le départ. C'est vraiment, je crois que je n'ai jamais vu autant de contrastes dans le niveau des élèves que là-bas. C'est fantastique sur ce plan-là et très instructif d'ailleurs. On peut voir, suivant la méthode de travail, et on voit vraiment des cas mais incroyables.
Quand tu dis que tu as vu des génies, c'est des génies d'un point de vue technique, uniquement technique, ou aussi artistique, des vrais artistes,
où tous les points de vue.
Il y en a quand même qui ont réussi à s'imposer, à avoir une patte artistique.
Et absolument, oui. J'ai vu une petite gamine de 7 ans, par exemple, qui avait travaillé une sonate de Haydn en même pas une semaine, qui avait entendu parler des cours et de la sélection du concours juste quelques jours avant. Et elle a demandé à être écoutée pour voir si elle pouvait participer. Et c'est incroyable, à 7 ans, de jouer une sonate pareille de manière quasi parfaite, avec vraiment une très belle interprétation, une belle sonorité, une maîtrise totale de la chose. En plus, en une semaine, et en ayant travaillé toute seule, sans son professeur. C'était assez intéressant. J'ai travaillé, par exemple, avec elle. On a regardé la sonate du début jusqu'à la fin pendant à peu près trois quarts d'heure. Et à la fin, je lui ai demandé, OK, alors on rejoue tout depuis le début. Et bien, toutes les modifications qu'on avait faites pendant ce quart d'heure, elle les a toutes faites sans en oublier une.
Tout assimilé, voilà.
Et à 7 ans, c'est quand même très rare ce genre de phénomène.
Espérons qu'elle ne sera pas broyée par, comme tu le disais, le phénomène de compétitivité, il faut être le meilleur.
Et exactement. Ça, j'ai vu aussi, par exemple, d'autres personnes qui étaient très talentueuses, donc des élèves de 13-14 ans dans cette tranche d'âge, qui m'ont écrit après plusieurs mails. On sentait vraiment une pression. Elles adoraient la musique, mais elles sentaient une pression terrible sur leurs épaules. Alors ça, c'est dangereux à cet âge-là. Mmh. Il faut quand même pas oublier quand même que le métier de musicien, c'est un métier de toute une vie. Alors si déjà on est si écrasé dès cet âge-là, ça peut. Certaines personnes vont pouvoir passer, mais d'autres vont être écrasées. Assez vite, ça c'est dangereux.
Tu as senti cette volonté et cette connaissance du fait qu'une carrière de musicien, contrairement à une carrière de sportif, de petite gymnaste, où à 13-14 ans on les voit déjà plus sur les compétitions, là il y a vraiment une volonté de s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire ils savent qu'ils vont faire ça toute leur vie et que c'est
ils le savent. C'est vrai que les musiciens, on les voit jouer jusqu'à 80-85 ans, c'est assez courant, donc ils se doutent bien que c'est l'histoire d'une vie. Maintenant, ces gens-là commencent un peu à douter, est-ce qu'ils vont résister à ce genre de pression toute une vie? C'est ça qui pose problème.
Est-ce que c'est la nouvelle génération qui se pose ces questions-là, ce que ne se posaient pas comme question leurs parents?
Probablement, comme ils ont accès à peut-être plus d'informations extérieures, c'est sûr qu'ils doivent se poser la question un petit peu plus.
Parce qu'on voit par exemple, on parlait de Hoda Tong tout à l'heure, justement sur l'apparition de la psychanalyse en Chine, justement à Chengdu, qui en est le berceau, où ils arrivent maintenant à se considérer comme individus plutôt que comme une société en tant que telle.
Je pense que ça prendra encore un moment, cette mutation, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'influence maintenant du reste du monde. Donc c'est beaucoup de choses sont en train de changer maintenant. Mais c'est vraiment, voilà, le changement est en cours. On ne peut pas dire qu'il est effectué et totalement achevé. Hein. C'est justement très intéressant de suivre l'évolution de tout ça. Parce que évidemment, c'est très intéressant sur le plan artistique, parce que sur des potentiels, des talents comme j'ai pu voir, si ces gens-là arrivent à bien trouver leur chemin, ce sera parmi les plus grands artistes des prochaines années. Ça c'est quasiment sûr.
Alors qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau dans la musique classique?
Bon, pour ces jeunes qui sont très talentueux, c'est encore un peu tôt pour le dire. Maintenant, c'est ce qu'on peut attendre, c'est un rafraîchissement, on va dire, des interprétations et de l'engagement de l'artiste. C'est vrai que quand ils font quelque chose, ils le font vraiment à fond. Ça c'est sûr. Peut-être que, bon, ça n'engage que moi, mais c'est vrai que je trouve que beaucoup d'artistes ont tendance à s'endormir un petit peu sur la passion qu'ils ont et sur les œuvres qu'ils interprètent. C'est souvent, on s'endort un petit peu, quoi. Et ça, peut-être que ça donnera un nouveau visage à l'interprétation, à l'engagement de l'artiste dans son œuvre. Parce qu'ils se dépensent tellement, ils se consacrent tellement à leur art que ça peut donner une bonne étincelle pour le reste du monde.
Depuis le début de l'interview, quand tu parles de ces artistes, de ces jeunes pianistes, tu dis « elles ». Ce ne sont que des filles ?
Non, c'est vrai que c'était en majorité des filles, mais c'était pas forcément. Il y avait aussi de très bons jeunes garçons et très bons éléments. C'est vrai qu'il faudrait que je vois pourquoi j'ai dit ça, mais...
T'étais marqué par des rencontres, voilà.
Non, mais c'est vrai que les personnes, les pianistes les plus impressionnantes que j'ai pu voir pendant ce séjour, c'était effectivement des filles, entre de 7 à 14 ans.
Elles sont très jeunes, là.
Oui. Les élèves plus âgés que j'ai vus, c'était de très bons potentiels aussi, mais moins impressionnants. Ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de chances de carrière, hein, bien sûr. C'est quelque chose à très long terme, ce genre de métier. Donc on peut encore rien dire. Mais le choc était vraiment dans cette tranche d'âge entre 7 et 14 ans. Ça, c'était vraiment très impressionnant. Mais j'ai vu pas mal de personnes aussi plus âgées, on va dire vers la vingtaine, on va dire très moyen en comparaison. Donc c'est assez étonnant de voir un niveau très jeune, très fort, et plus âgé finalement, pas si fort que ça. C'est là que je suppose qu'il y a quand même pas mal de chutes au moment de l'adolescence. Et d'ailleurs, c'était confirmé par ce professeur chinois qui m'avait invité. C'est exactement ça qu'il voulait éviter pour ses élèves et pour d'autres élèves.
Ce concours à Nice a lieu à partir de quand ?
C'est tous les ans à partir de fin octobre, début novembre. Là, c'est là, pour l'année prochaine, ce sera à partir du 30 octobre.
D'accord, donc tous ces élèves, enfin tous ces enfants que tu as vus vont participer au prochain concours ou ils ont déjà
participé ? On va en sélectionner, je pense, une petite dizaine. En fonction des possibilités du concours. C'est difficile aussi après d'avoir une délégation trop grande de Chine parce que c'est simplement une question d'organisation. Ça peut être compliqué avec, parce que très souvent presque personne ne parle anglais. C'est pas vraiment simple. Et puis voilà, pour à peu près, on essaye d'avoir une représentation dans tous les niveaux. Donc une dizaine de candidats, ça paraît, c'est à peu près une bonne balance pour le concours. On n'empêche évidemment pas, si les candidats veulent aller de leur propre chef, c'est faisable, bien sûr. Cette sélection pour la région du Sichuan se fera probablement en septembre et on en prendra une petite dizaine.
Quel a été le résultat de l'édition 2009 du concours alors ?
Ben, presque tous les Chinois qui ont été sélectionnés ont obtenu des premiers prix. Donc,
c'était une bonne sélection,
voilà. D'accord. Exactement. Bien. Non, tout le monde était ravi et impressionné. Voilà, du rapport entre l'âge et les niveaux. Ça, c'est pratiquement toujours 3-4 ans d'avance, voire plus, par rapport aux candidats étrangers, européens, on va dire. C'est un concours international, donc il y avait, plus de 13 ou 14 pays représentés, donc il y avait quand même un bon panel pour
se faire une idée. La Chine était en tête, en tête.
C'est vrai qu'au mesure des résultats, effectivement, ils ont eu de très très bons résultats.
D'accord. Et en France, qu'est-ce qu'on avait comme représentant ?
On avait de bons représentants aussi. D'ailleurs, la personne, il y a plusieurs catégories dans ce concours, et la catégorie la plus haute, c'est ce qu'on appelle la catégorie Grand Prix. Et c'est un Français qui a gagné, un Niçois en plus, qui a gagné cette année, qui s'appelle Christophe Alvarez, qui est un excellent pianiste, qui a gagné face à deux candidates, une japonaise qui est maintenant étudiée en Allemagne, et une autre qui est tchèque. La France était bien représentée aussi par les conservatoires de Nice et de Marseille, surtout du conservatoire de Marseille, avec pas mal de candidats, d'élèves de là-bas.
Christophe.
Oui, je voudrais parler de piano, l'instrument en tant qu'objet.
Oui.
Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas ? Parce que la dernière fois, on avait une discussion sur Bösendorfer, Steinway,
oui,
Fagioli.
Je n'ai pas trouvé ce genre d'instrument.
Qu'est-ce que
tu as
trouvé ? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des facteurs d'instruments chinois qui, en local, se mettent à fabriquer ou peut-être que ça existe déjà, je ne sais pas.
Alors, sur le premier point, c'est vrai que dans la plupart des écoles et chez les particuliers, les élèves, ont accès à de vraiment très mauvais instruments. C'est souvent des instruments qui ont beaucoup vécu, donc c'est un son un peu de casserole, on va dire. Donc dans les conservatoires, c'était pas terrible. Par contre, dans les salles de concert et dans le conservatoire donc d'État, là on peut avoir de très bons instruments Steinway. Vraiment, voilà, des instruments qui sont comme on connaît en Europe. Donc ça, c'est le premier point. Sur le plan des facteurs, oui, il y a des facteurs de piano chinois qui commencent à se développer assez conséquemment. Donc je n'ai pas eu l'occasion de vérifier la qualité de ces pianos, on va dire, en sortant d'usine. Mais c'est quelque chose que je compte faire un jour. Alors c'est des pianos au prix défiant toute concurrence.
Oui, voilà,
bien sûr.
J'allais demander quelle politique ils ont choisi. Est-ce qu'ils vont faire des prix cassés
Pour l'instant, c'est des prix totalement, vraiment très très bon marché, avec une qualité un peu décevante certainement. C'est ce professeur chinois qui m'a parlé de ça.
Tu le fais pas accorder, t'en rachètes un nouveau.
On peut dire
presque,
ça. Ouais. Mais par contre, ils sont tellement avides d'informations et curieux et en recherche de connaissances que ça progresse très vite. Donc je pense que très prochainement, la donne va changer.
L'avenir est peut-être là-bas, ouais, pour les pianistes, ouais, et pour les
instruments. Bon, il y a évidemment là une tradition qui est quand même très grande à rattraper. Ce n'est pas impossible.
D'accord.
En tout cas, je pense qu'ils vont arriver à faire des instruments de bonne qualité, à des prix certainement vraiment en grande concurrence pour les autres facteurs.
Petit détail, les particuliers peuvent trouver des accordeurs là-bas. Tu disais les familles n'avaient pas des bons pianos chez eux, mais il y a des accordeurs, on peut trouver facilement.
Il y a des accordeurs, oui, ouais. Oui, bien sûr. Et c'est un petit peu sport, mais ça permet quand même de développer.
D'accord, ça permet de travailler.
Bien sûr. Et d'ailleurs, on a pu voir au concours, les gens, les pianistes qui sont venus, se sont très bien adaptés au piano qui était magnifique. Le Steinway qui était au Conservatoire de Nice, c'était une très belle salle et un très beau piano. Tous les élèves se sont adaptés absolument parfaitement au piano, donc c'est faisable.
Et tu penses que ça peut jouer, le fait d'avoir développé son talent et d'avoir appris sur des pianos de moins bonne qualité, et le fait d'apprécier ensuite de jouer sur des beaux pianos ?
C'est un peu compliqué, comme la réponse peut être à double tranchant. Je pense que si on a l'habitude de pianos qui ne répondent pas bien, on va chercher vraiment, on va faire le maximum pour obtenir quelque chose. Donc quand on a un piano qui répond après très bien, on l'apprivoise assez rapidement. Maintenant, c'est vrai que si on est habitué à ne jouer que sur des Rolls-Royce, des pianos extraordinaires, s'il y a le moindre problème, bah on est peut-être finalement plus perdu.
Ou alors on refuse de jouer aussi, peut-être.
Voilà, mais ouais. Enfin, à 14 ans, c'est un peu délicat, mais,
oui,
mais c'est vrai qu'on peut être, perdu. Ou vraiment déboussolé, on a une telle surprise sur l'instrument qu'on peut être déconcentré et ça peut provoquer des erreurs. Donc j'ai vu ça aussi dans les pays de l'Est, moi-même quand j'ai fait mes études, c'est vrai que c'était sur des instruments pas véritablement mieux que ce que j'ai pu voir en Chine. Alors quand on a un bon instrument, qu'on s'est efforcé tant, quand on a combattu son clavier pendant des heures pour arriver à sortir quelque chose, après si on a un bon instrument, bah, tout passe tout de suite, quoi. Le plaisir est décuplé. Bon, c'est vrai qu'arriver à un certain niveau, après, pour vraiment régler certaines choses de grande finesse, il faut le bon instrument, parce que ça ouvre aussi des horizons. Il y a certaines choses qu'on ne pouvait même pas imaginer pouvoir faire, qui se présentent, et on voit, c'est faisable, mais là, c'est vraiment les derniers ajustements qu'on puisse faire sur une œuvre.
Quand tu es parti en Chine, est-ce que tu avais une idée d'un programme que tu avais conçu en France et tu as été obligé de changer là-bas?
Sur les œuvres, pas vraiment. On m'avait donné quand même des précisions sur les œuvres qui allaient être jouées. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de répertoire français, mais bon, c'était des œuvres du répertoire quand même très connues, donc il n'y avait pas de surprise sur les œuvres.
Qu'est-ce que tu en ressors maintenant de ce séjour en Chine?
Beaucoup de questions sur l'avenir de ces jeunes pianistes. Vraiment, j'aimerais les revoir, ça va se faire, parce que c'est des gens très attachants. Quand il y a le talent et l'accueil et l'envie de faire quelque chose de bien, forcément c'est très agréable. Donc on a envie de les revoir et de les aider. Peut-être essayer de faire quelque chose pour certains de ces élèves, d'arriver à d'en amener quelques-uns en France faire leurs études. Ce serait une bonne chose pour essayer de leur donner une ambiance, une atmosphère qu'ils ne connaissent pas. Les voyages, sur le plan de la formation artistique, c'est quelque chose de très important. Essayer peut-être de contribuer à ce genre d'échange. Ça, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, qui sont à l'étude en ce moment. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, un lien affectif sûr.
Très bien, Antoine. Merci pour ce petit regard sur la Chine, sur cette Chine qui s'ouvre de plus en plus à la musique européenne. Elle s'ouvre à la musique contemporaine ?
Pour l'instant, je pense que oui, sur leurs compositeurs, sur les compositeurs chinois, peut-être plus. C'est vrai qu'après, il y a aussi des problèmes pour simplement obtenir les partitions. C'est un peu plus difficile, mais vraiment la musique contemporaine, on va dire la plus complexe, ça je n'ai jamais entendu, aucun élève n'a joué vraiment de ce genre de répertoire. Ça devait s'arrêter au milieu du 20e dernier délai.
Alors, amis auditeurs, on est en train de concocter un petit programme pour vous sur la musique classique avec Antoine pour de nouvelles émissions dans l'année et pour l'année prochaine. Alors là, ça sera la surprise. En tous les cas, moi, je vous conseille très fortement de vous déplacer le 13 mars 2010 pour écouter Antoine en concert à la salle du Conservatoire National d'Art Dramatique dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Robert Schumann et Frédéric Chopin, 1810-2010, avec Antoine Bouvy au piano et Marc Drobinski au violoncelle.
Voilà. J'aimerais juste rajouter une petite anecdote parce que ça m'avait beaucoup amusé lors de ce séjour à Chengdu. Sur tous les bus de la ville, il y avait une phrase qui était vraiment, qui résume assez bien l'ambiance générale. En traduisant, ça fait « Soyez fort pour avoir un avenir brillant ».
Ah oui.
Voilà, c'était, et ça c'était partout.
C'est la méthode cool, ça.
Ouais, voilà.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
À très bientôt, Antoine.
À bientôt, avec plaisir.
Merci, Christophe.
Avec plaisir.
Ici, autre radio, autre culture. Au revoir. Ah. Autre radio, autre culture.